Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors avant de commencer notre émission, on va parler cette semaine de quelques bonnes nouvelles, ce qui est assez rare. Hein. Donc le Conseil d'État vient d'abroger définitivement le texte qui permettait les chasses traditionnelles. C'est fini. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a gagné. Les filets, les cages, les glues sont désormais interdits et les alouettes, les vanneaux et les grives peuvent chanter librement. La forêt soumise au réchauffement climatique se trouve des alliés. L'UICN et les forestiers s'inquiètent de l'adaptation et étudient les solutions d'aide à la migration des espèces. Le 9 juin, ce sont les élections européennes. Cela approche. Allez voter. L'Europe a toujours jusqu'à présent considéré que l'environnement devait être défendu. Cela doit continuer. Il n'y a qu'un jour pour voter, le 9 juin. Votre vote est primordial et faire mentir tout ce qui compte sur votre abstention. Bien, il est temps maintenant de donner la parole à notre invitée, Sonia Victoria Rincon-Ortiz, qui nous a rejoint pour parler de la semaine consacrée aux Caraïbes et à l'Amérique latine, la SALC. Alors bonjour Sonia.
Bonjour Dominique, merci.
Vous êtes donc fonctionnaire territorial à la mairie de Montpellier et en 1987, alors vous me corrigerez si je me trompe, hein, vous avez fondé AFCM2 et vous menez des actions solidaires en Colombie et en France. Alors qu'est-ce que c'est que AFCM2 et que fait cette association ?
Oui, je suis effectivement membre fondateur de l'association. D'abord, c'était AFCM, c'est Amitié franco-colombienne de Montpellier. Et c'est à but non lucratif, donc on fait beaucoup d'actions culturelles. On essaye de montrer plein de choses positives de la Colombie et surtout aborder des thèmes qui sont d'actualité, qui sont vraiment intéressants pour tout le monde. Et aussi soutenir des projets à but humanitaire, solidaires, en Colombie. Et nous aidons aussi les causes en France et à Montpellier particulièrement.
Alors, vous allez bientôt lancer la SALC, dont c'est la 11e édition. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la SALC ? Et puis, quels sont vos liens aujourd'hui avec la Colombie ? Et pourquoi en parler à Montpellier, surtout ?
Oui, effectivement, la SALC, c'est la Semaine Amérique latine et Caraïbes, qui est issue d'une proposition du Sénat. Comme nous disait tout à l'heure le secrétaire général qui était en visite à Montpellier, M. Bastelica. Et du coup, ils ont développé un réseau avec les associations d'Amérique latine et Caraïbes. Et chacune a proposé à son rythme et selon ses moyens des actions culturelles très, très diverses parce que ça touche toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Et donc, d'année en année, ça a pris son engouement. Il y a vraiment une très, très belle programmation qu'il faut consulter sur le site Internet.
Et alors, vous nous le donnez, site Internet ? Non, sur celui des Caraïbes, enfin, de la SALC.
C'est la SALC, oui. D'accord. On a qu'à taper SALC, ça
oui,
apparaît.
Oui, ça apparaît très fort.
Voilà. Et la Colombie, bien sûr, on fait partie de cette salle, que ça fait déjà la quatrième fois qu'on participe, et toujours avec des thèmes d'intérêt et différents à chaque fois.
Oui, alors ça peut être festif, scientifique, oui. Culturel, etc.
Ouais.
Alors, vous êtes vous-même, Sonia, en lien avec Bogota, je suppose.
Oui, tout à fait. Je suis en lien non seulement avec Paris, l'ambassade et le consulat, de Colombie en France, mais également avec l'ambassade de France à Bogota et avec d'autres contacts que j'ai par le biais d'un réseau qu'on c'est le lycée français en fait. Et donc du coup, il y a une association d'anciens élèves du lycée français qui marche très très bien. Et il y a même une rencontre qui s'appelle FOMA, que cette année va avoir lieu à Bruxelles entre le 24 et le 26 mai, à laquelle je vais y participer pour la première fois, parce que les précédentes, je n'ai pas pu assister pour des raisons de travail. Donc cette fois-ci, il y a des gens de Colombie qui viennent et moi, je vais m'y rendre parce que c'est très intéressant comme événement.
Et vous-même, vous êtes colombienne ?
Oui, je suis franco-colombienne. Je suis née en Colombie, mais j'ai passé plus de temps ici en France qu'en Colombie, à vrai dire.
Mais voilà. Vos parents sont colombiens ?
Mes parents sont colombiens, oui, et c'est eux qui avaient cet engouement pour la civilisation française, donc ils nous ont inscrits à la maternelle du lycée français de Cali d'abord, le lycée français Paul Valéry, et ensuite à Bogota, lorsque mon père a été muté pour son travail au siège, et on a continué au lycée français Louis Pasteur de Bogota.
Très bien. Donc, vous parlez français finalement depuis très, très longtemps.
Maternelle.
Depuis la maternelle. Et après, vous avez fait vos études à Paul Valéry.
Oui, j'ai étudié à Paul Valéry. Voilà, comme on dirait monsieur le maire également, maire président. On est aussi un réseau là et c'est vrai, j'ai fait mes études à la Paul Valéry, un petit peu de tout. Voilà, mais des choses toujours passionnantes.
Alors, vous êtes restée en lien avec Bogota. Et en fait, dans le cadre de la SALC, vous annoncez, vous affichez un soutien majeur à Comuna 13, une des 16 communes de la ville de Medellín, qui fut l'un des barrios les plus violents, les plus pauvres aussi, et aujourd'hui qui a tout à fait changé. Donc d'abord, on va entendre une petite présentation de ce qu'est devenu aujourd'hui Comuna 13.
Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la Comuna 13 à Medellín, un quartier chargé d'histoire qui a connu une véritable transformation au cours des dernières années. Nous avons fait un tour de 3 heures avec Steven, un jeune Colombien qui a vécu toute sa vie ici et nous a plongé dans une des périodes les plus sombres de Medellín et de la Colombie. Pendant longtemps, la Comuna 13 était un des quartiers les plus dangereux du pays. Le chaos et la pauvreté qui règnent sur les collines surplombant la ville en ont fait une zone de non-droit, contrôlée par les narcotrafiquants, les milices et les bandes armées. La violence est si extrême que le début des années 90 est marqué par pas moins de 7000 meurtres par an. Le gouvernement tente de reprendre le contrôle du quartier en envoyant l'armée pour de nombreuses opérations, sans succès. En 2002, l'opération Orion est une réussite, car 350 personnes sont capturées, mais finalement seulement 82 sont déclarées coupables, et les autres n'ont jamais été retrouvées. Beaucoup pensent qu'ils ont été abattus et enterrés sous une montagne de gravier que le gouvernement agrandit chaque année.
Petit à petit, les choses commencent à changer. Les derniers paramilitaires rendent les armes, et le gouvernement décide d'aider activement le quartier à se reconstruire. Il existe 3 facteurs principaux qui ont contribué à l'épanouissement de la Comuna 13. Premièrement, l'art. Un travail gigantesque est mis en place sur le développement des arts afin de sortir les jeunes de la violence et de l'illégalité. Le hip-hop devient omniprésent et les habitants utilisent des graffitis pour s'exprimer et raconter leur histoire. Il existe environ 300 tags dans le quartier aujourd'hui et chacun a une signification précise. Il suffit d'avoir l'aval du propriétaire de la maison pour peindre selon ses envies. Ensuite, les infrastructures. En 2012, des escalators sont installés afin de faciliter le déplacement et d'attirer les habitants d'autres communas. C'est le seul quartier d'Amérique où l'on peut monter avec des escalators en plein air. Enfin, la culture et l'insertion. Une bibliothèque avec un accès gratuit aux livres, aux ordinateurs et à Internet est ouverte et des aides à l'éducation et à l'emploi sont mises en place pour les jeunes. Aujourd'hui, la Comuna 13 est très visitée et attire de nombreux touristes tous les jours. C'est un quartier vivant, marquant et parlant, au sein duquel on rencontre une population pleine d'espoir et bourrée de talents qui transmet des messages de paix à travers son art. L'innovation et les technologies ont aidé le quartier à se reconstruire. En 2013, les gangsters ont fait un deal. La guerre est terminée, plus personne ne se tire dessus et ils sont toujours présents mais moins dangereux. Toute personne qui veut vivre et travailler là doit payer des taxes au cartel. Tous les dimanches, ils t'appellent pour savoir où tu es et viennent chercher ton pourcentage en cash. Si tu ne payes pas tes taxes, ils te forcent à fermer ton business et si tu refuses, ils viennent le saccager ou te voler. Steven nous a partagé son ressenti et celui des habitants du quartier. Ils ne trouvent pas la situation si dérangeante car ils ont le sentiment de payer pour contribuer à la sécurité du quartier et de leur famille.
Nous avons beaucoup aimé découvrir la commune à 13 et son histoire, déambuler dans les ruelles bruyantes, animées et colorées, et assister au spectacle qu'offre une jeunesse au passé douloureux, rempli de messages d'espoir.
Alors, Sonia, vous allez, dans le cadre de la SALC, vous allez parler de commune à 13.
Oui, effectivement. C'est parce que on a pris ce projet qui a proposé l'association Bien Grandir Commune 13. Et du coup, on l'a adopté pour cette semaine culturelle franco-colombienne.
Et alors, ce projet, c'est quoi?
Alors, c'est une association qui s'appelle Bien Grandir Commune 13, et qui a pour but de promouvoir, d'organiser, de favoriser tout projet pouvant améliorer la santé et l'éducation des enfants non encore scolarisés dans cette commune à Medellín. Ensuite, bon, il y a beaucoup de moyens d'action.
On vient d'en entendre parler oui. Et définir un certain nombre. Oui. Hein. Mais vous-même, vous allez faire quoi ici à Montpellier pour Commune à 13? Vous allez en parler d'abord?
Oui,
le
bien
faire
sûr,
connaître.
On va communiquer sur ce projet qui a été adopté. Et on a le samedi 18 mai, justement, une journée solidaire qui aura lieu à l'espace Martin Luther King au 27 boulevard Louis Blanc entre 9h30 et 17h. Donc, il y aura des stands d'Amérique latine, d'artisanat, des ateliers gratuits pour enfants et adultes, de la musique, de la gastronomie, une petite buvette avec des
et
boissons
tout ça
sympathiques.
Ça sera au service du projet.
Tout à fait, en faveur de ce projet. Voilà, qui a été lancé par à peu près 16-17 pédiatres, mais qui tiennent beaucoup à ces actions parce qu'ils ont visité la Comuna 13 et ils ont décidé d'ouvrir cette association et de travailler en leur faveur avec l'achat de fournitures, de mobilier, de puériculture et aussi avec un rapport avec l'éducation également.
Et vous-même, vous y êtes allée?
Moi, j'ai visité, bien sûr, Medellín et la Comuna 13, qui est vraiment maintenant devenu un lieu pour les touristes. Voilà, parce qu'elle est très colorée, c'est très joli, il y a le funiculaire, il y a plein de choses sympas qui se passent dans ce quartier.
Alors, un des autres thèmes qui va être abordé lors de cette semaine, c'est bien sûr la future COP16 sur la biodiversité. Alors, elle ne se déroulera pas comme on vient de... Là, Comuna 13, c'est à Medellín. Et là, la COP16 se déroulera, elle, à Cali. Alors, Cali, c'est votre ville, je crois.
Oui, c'est ma ville. Et j'étais très heureuse d'apprendre cette nouvelle. Et effectivement, la COP16 aura lieu du 20 au 31 octobre 2024. C'est vraiment très, très bien. Bon, nous, on est un pays deuxième du monde par rapport à la biodiversité. Il y a vraiment plein d'actions qui se font dans ce sens-là. Il y en a d'autres qui sont moins positifs, mais bon, on va parler que du positif dans ce cas-là.
Bon, enfin, on va y revenir de toute façon assez longuement. Alors, il y a 2 ans, cette COP biodiversité se déroulait à Montréal. Donc, cette année, elle va revêtir une importance considérable puisqu'elle est chargée de mettre en place ce qui a été décidé donc, par les accords de Cumming-Montréal. Alors, elle va se dérouler donc dans ce pays, la Colombie, qui a trop longtemps été soumis à la guerre. Hein. Et le thème qui a été choisi par Bogota, justement, c'est paix et biodiversité. Alors, vous ouvrez la semaine sur cette question, justement. Alors, votre inauguration est sur ce thème.
Oui.
Vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de cette inauguration?
Enfin, c'est-à-dire, il y a une représentante, la ministre plénipotentiaire qui sera là, Madame Carolina Díaz Acosta. Donc, elle est aussi spécialiste dans cette thématique. Elle pourra nous en parler vraiment de comment elle voit, quelles sont les décisions, les dernières décisions du gouvernement. Elle est plus amène à en parler, à détailler tout ça. Et puis, échanger avec la personne, l'élu qui sera là en représentation de Monsieur le maire.
Qu'est-ce que vous espérez que... Comment vous espérez que Montpellier, finalement, va s'associer avec la Colombie que vous adorez?
Oui, moi, je tiens beaucoup à Montpellier. Je vois les actions qui se font par le biais, bon, bien sûr, de la mairie ou de la métropole. Mais c'est vrai qu'on est tous concernés. Hein. Ce n'est pas uniquement Montpellier. Avec la Colombie, certes, c'est un pays qui est pionnier dans la biodiversité, avec ses richesses naturelles et la défense de notre patrimoine. Donc j'espère qu'on pourra avoir éventuellement des projets en commun, comme bon, c'était un peu envisagé quand il y avait la maire Claudia López, qui avait connu Madame Clara Hart des relations internationales et Madame Clémentine Papa. Donc maintenant, il y a un nouveau maire, mais ils sont tous dans cette dynamique de faire avancer les choses en biodiversité, en respect de la nature, et que les gens prennent vraiment conscience de notre richesse et qu'il faut respecter, il faut faire avancer les choses.
Alors, on sait que Montpellier a un très gros potentiel en matière de recherche environnementale. Donc, effectivement, le lien que vous tendez, que vous essayez de créer est extrêmement important. On sait aussi que c'est pas facile de défendre l'environnement en Colombie. Il y a encore des journalistes récemment qui se sont fait assassiner. Et donc, un des thèmes dont on va parler, enfin dont vous allez parler, c'est celui de la déforestation. Et ce sont les femmes, je crois, qui se sont engagées sur la déforestation.
Oui, tout à fait. Il y a le pouvoir des femmes. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que un peu partout dans le monde, c'est un mouvement féminin qui fait avancer les choses, qui fait avancer les projets. Et comme il y a eu, par exemple, en Argentine, bon, c'est autre chose, mais c'est toujours les femmes qui tiennent le flambeau et qui tiennent vraiment à défendre, dans ce cas-là, la nature, la biodiversité et avoir des projets innovants. Donc, il faut toujours les soutenir.
Alors, il y a des femmes que vous avez rencontrées et que vous espérez, à qui vous espérez donner la parole.
Oui, effectivement, ça sera par contre la deuxième table ronde le 17 mai. Et donc il y a deux invités que j'ai trouvées lors de mon dernier séjour. Une qui est la présidente des femmes scientifiques, qui a également des liens avec Paris et d'autres capitales européennes, qui est très brillante. Et une deuxième qui fait partie du ministère de l'Environnement et qui est aussi une très belle femme qui représente la Colombie et qui a représenté dans le Miss Earth,
Miss Monde,
enfin quelque sorte. Et du coup, c'est des femmes très très brillantes et qui ont beaucoup de cœur et qui travaillent beaucoup pour l'écologie, la biodiversité, des sujets d'actualité. Mais elles seront là en visio.
En tout cas, quand vous les aurez entendues ou vues, vous pourrez retourner sur Internet. On voit notamment Miss Earth défiler avec sa grande cape pour lutter contre la déforestation. Et c'est vraiment très important. Oui. Alors, des efforts ont été menés sur la déforestation par la France, hein, qui soutient ce processus de paix en Colombie et qui a défendu la forêt. La forêt va avec des projets.
La paix en Colombie peut-elle aider à lutter contre la déforestation? C'est avec vous qu'on en parle, Lucille Gimbert. Bonjour.
Bonjour.
En 2023, la déforestation a chuté de 49% dans ce pays, la Colombie. On vient d'avoir les chiffres grâce à une étude de l'Institut des ressources mondiales. C'est positif, évidemment, pour l'Amazonie colombienne, très riche en biodiversité, pour la lutte climatique mondiale. Mais comment l'expliquer?
Alors, ces bons résultats sont en partie le fruit d'efforts antérieurs, mais Gustavo Petro, le premier président
président de gauche du pays sud-américain, fait aussi sa part. Il a lancé une série de politiques publiques pour restaurer certains secteurs de l'Amazonie, donner des terres aux communautés locales pour qu'elles gèrent de façon durable la forêt. Le travail des populations autochtones aussi est fructueux. Enfin, les groupes armés qui négocient actuellement la paix avec le gouvernement. Il y a deux factions dissidentes de l'ancienne guérilla des FARC, le LN, des paramilitaires d'extrême droite et des trafiquants de drogue. Eh bien, ils exercent eux aussi le contrôle de la déforestation.
Et de quelle façon la contrôle-t-il ?
En Colombie, il faut avoir en tête que des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'État. Ils sont aux mains de ces différents groupes armés qui régentent la vie des populations locales. Ces groupes se financent principalement par le trafic de cocaïne et les mines, deux activités qui signifient évidemment de la déforestation. Et ils coupent des arbres aussi pour ouvrir des routes et pouvoir acheminer la drogue et déplacer leurs hommes. Mais ces derniers temps, le déboisement est devenu un enjeu de négociation. Pétrole a mis sur la table des discussions et les groupes armés l'utilisent désormais comme une manière de montrer leur pouvoir sur les territoires qu'ils occupent et comme un gage de bonne volonté vis-à-vis du gouvernement.
Mais comment concrètement freine-t-il le déboisement, Lucille ?
Eh bien, par exemple, une chercheuse colombienne m'expliquait qu'ils communiquent à la population sur quelles parcelles ils autorisent la coupe d'arbres, sur lesquelles non et quelles vont être les sanctions qu'ils vont appliquer.
Si la paix totale était signée en Colombie, cela signifierait forcément moins de déforestation, Lucille ?
Alors, en théorie, oui, mais à la condition que l'État reprenne le contrôle de ces zones démilitarisées. Or, il y a quelques années, c'est l'inverse qui s'est passé. En 2016, le gouvernement de Juan Manuel Santos a signé un accord historique avec ce qui était alors la guérilla des FARC. Plus de 13 000 combattants démilitarisés pour la forêt. Cela a signifié une hausse de la destruction. Au début, de grands propriétaires terriens ont avancé sur ces terres pour y mettre du bétail, des plantations. Et très vite, les autres groupes armés, les dissidents des FARC, les bandes criminelles, se sont battus pour prendre ce territoire laissé par la guérilla et pour s'étendre sur cette zone. Eh bien, ils l'ont déforesté en partie. Et si demain, d'autres groupes signent la paix et se retirent de certains espaces de la Colombie, si l'État n'est pas capable de les investir, d'y développer des services publics, des alternatives économiques aux plantations de coca, la forêt et les populations locales revivront le même calvaire.
La France a fait un don de 50 millions d'euros. L'AFD, l'Agence française de développement à Paris, va aussi participer à cette semaine importante. Elle a déjà aidé la ville de Barranquilla en restaurant une vaste lagune et en créant une forêt urbaine. Alors, Sonia, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment, à votre avis, l'écologie pourrait ramener la paix en Colombie ?
Oui, je pense que ça aide à cette situation, malgré bon tout le parcours de guerre et de tuerie et massacre qu'il y a eu dans le pays et aussi le fléau de la drogue, bien sûr. Mais si on arrive quand même à trouver un compromis, je pense que oui, cette situation pourrait s'améliorer et on pourrait trouver un jour vraiment la paix dans le pays. Et c'est ce que tout le monde souhaite, hein. Le peuple, il souhaite ça.
Alors, obligatoirement, si on parle biodiversité, on va parler des peuples autochtones. Il y en a encore en Colombie.
Oui, effectivement, il y en a plein. Moi, je me suis rendue en Amazonie, j'ai visité une communauté spécialement, et j'en connais d'autres, mais bon, qui sont vraiment très connus. Ils sont toujours là et ils défendent la terre. Et ils sont même les protecteurs de la forêt, de la faune. Quand ils pêchent ou ils chassent, ils savent ce qu'ils font. Ils font pas ça pour se remplir les poches. C'est pas leur mentalité, leur sagesse est vraiment autre.
Leur culture est totalement différente.
Ah oui, exactement. Donc, c'est pour ça. Quand il y a eu les massacres du caoutchouc au 19e siècle, bon, ça aussi, c'était abominable. Maintenant, ils essayent de se faire pardonner. Mais bon, il y avait les États-Unis, il y avait des Européens, il y avait des Péruviens, des Boliviens. Et ça, c'est parce que c'est la soif d'argent et d'exploitation du caoutchouc. Mais ils ont été massacrés.
On continue aujourd'hui, bien sûr, sur avec effectivement la coca qui reste, c'est plus le caoutchouc, mais c'est la coca, et ça reste forcément quelque chose qui les menace en permanence.
Oui, effectivement. Ils ne sont pas, comme on dit, sortis l'auberge, parce que quand ce n'est pas une chose, c'est une autre. Donc c'est toujours des fléaux qui, et ça les menace, parce qu'ils se disent, ça va donner à quoi ? Une mort culturelle, une mort physique, parce qu'ils appréhendent vraiment de mourir à cause de tous ces personnages.
Et qu'est-ce qu'ils essaient d'avoir ? Ils essaient d'avoir un peu plus de terre.
Oui, ça oui, et protéger déjà ce qu'ils ont. Pas se voir chassés de leur territoire et de leur maison. C'est la maloca, voilà. C'est des petites maisons très simples. Mais le problème, c'est que des fois, ils veulent vendre les terres. Le gouvernement, ou il y a d'autres intérêts, comme ça a été le cas au Brésil. Donc voilà, j'espère qu'on ne va pas arriver là.
D'accord. Alors, vous allez, dans le cadre de la semaine, de cette semaine, est-ce que vous avez d'autres annonces à faire ?
Oui. Donc, on a une soirée cinéma en Colombie le 27 mai à la salle Rabelais de 18h30 à 22h. Et aussi le 28, le vernissage d'une très belle exposition des Arhuacos, dont leur savoir ancestral et patrimoine de l'UNESCO. Et c'est un reporter franco-malgache qui a fait ce reportage photographique et qui est magnifique. Je vous invite tous à visiter. Ça aura lieu au château Flongergue. Et c'est un très bel endroit qu'on nous a proposé. Et vraiment, on y tient à cette exposition parce que c'est en lien avec la communauté indigène des Arhuacos.
Alors, je vous invite tous, bien sûr, à participer à cette semaine culturelle. Vous y retrouverez Sonia, qui vous guidera. Et puis, je pense que vous allez retrouver dans les médias le programme exact de la semaine. Alors, nous, on va se retrouver de toute façon en septembre, après les vacances, pour parler des enjeux de la COP16, parce que nous n'avons fait que de les effleurer aujourd'hui. Je rappelle que la fleur d'Inirandirida, est-ce que vous la connaissez, cette fleur ? Est-ce que vous l'avez vue ?
Non, je ne l'ai pas vue personnellement, mais je suis vraiment agréablement surprise de ce symbole qu'ils ont pris. Et c'est une fleur éternelle, c'est-à-dire qui fait face au vent, aux marées. Donc, c'est tout un symbole derrière cette fleur. Elle est magnifique et c'est un excellent choix.
Alors, redonnez-nous son nom parce que je l'ai écorché. Inirandirida, c'est ça ?
Inirandirida, oui.
Voilà. Alors, c'est comme vous l'avez dit, c'est un immense symbole puisque c'est une fleur qui reste vivante. C'est une plante aquatique qui est endémique de la Colombie. Hein, voilà. Et que le slogan « Paix et biodiversité » laisse deviner que la déforestation, les mines illégales, les conflits socio-environnementaux pèsent encore lourdement dans la vie de ce pays.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.